les ministres dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si quelqu'un se dit être enfant de Dieu et il dit qu'il ne va pas écouter ceux qui sont établis par Dieu lui-même, cela voudra dire que la personne est en train de se tromper elle-même, parce qu'on ne peut pas prétendre être de Dieu et ne pas vouloir écouter ceux qui ont été établis par ce Dieu. Nous voyons que Naaman a dû écouter Élisée. S'il refuse d'écouter Élisée, ça veut dire qu'il refuse d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui refuse d'écouter le Seigneur Jésus-Christ refuse d'écouter Dieu lui-même. Donc vous voyez que Élisée ici nous retrace le schéma de Luc 10, verset 16, où le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Mais si quelqu'un refuse de vous écouter, ça veut dire qu'il refuse de m'écouter, et celui qui refuse de m'écouter, qui me rejette, rejette alors Dieu. Donc nous voyons que celui qui refuse d'écouter l'Église dans laquelle les ministres sont établis pour conduire, pour veiller sur les âmes des frères et sœurs, nous voyons qu'il refuse d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il refuse d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a refusé d'écouter. Donc, Élisée, étant membre de l'Église dont cette jeune fille captive représente, étant un membre de l'Israël physique, qui est ici un symbole de l'Israël spirituel, nous voyons que Élisée est alors ici, par conséquent, l'Église qui parle. Ici, étant donné qu'il est l'Église qui parle, Naaman refuse de l'écouter. Ça veut dire que Naaman a même bafoué le message qu'il a entendu de la bouche de cette jeune fille avant de venir vers Élisée. Et quand il est venu vers Élisée, s'il ne l'écoute pas, ça veut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas écouté. Et qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, rejette Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Élisée a joué ce rôle dans le passage que nous sommes en train d'examiner. Nous allons voir que, selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, nous allons lire ça. C'est connu de tous, mais n'empêche.
La parole dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen.
Amen. Verset 14.
Je vais jusqu'au verset 14, je lis que le verset 14.
Je lis le verset 14 seul.
Et la parole a été faite chair, et elle habite, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen.
Donc voilà ce rôle, Dieu qui est la parole, qui s'est fait chair. Donc c'est cette représentation que Élisée nous donne ici. Il est à l'image de Dieu qui s'est fait chair et qui est la parole. Voilà pourquoi refuser de l'écouter sera fatal pour Naaman et pour tous ceux qui écoutent et rejettent la parole de cet homme. Ainsi, frères et sœurs, nous voyons que le prophète Élisée, après avoir été écouté finalement par Naaman, Naaman a obtenu satisfaction. Naaman a obtenu la guérison. Parce que la parole de Dieu dit qu'il a été pur. Sa chair est redevenue fraîche comme celle d'un jeune garçon. Donc, il est guéri. Et nous voyons qu'après cela, il décide maintenant d'offrir ses présents qui sont ici un symbole de la justice de l'homme ou des œuvres de la loi. Il a voulu offrir ça en échange, en compensation de sa guérison. Or, aucun présent, aucun cadeau, aucun bien aussi grand qu'il soit, ne peut apporter la guérison à un pécheur, ne peut ôter le péché, ne peut effacer la condamnation de l'homme devant Dieu. Voilà pourquoi le prophète Élisée va refuser ce présent. Il ne l'a pas pris. Donc ici, qu'est-ce que le prophète Élisée est en train de nous enseigner là? Ou qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner à travers cette attitude du prophète Élisée? Philippiens 2, versets 5 à 8.
Philippiens 2, versets
5 à 8.
Philippiens. Excusez-moi. Philippiens 2, versets 7 à 8, la parole dit. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À la même. Même jusqu'à la mort.
Donc, c'était une prophétie montrant que il viendra un moment où le Seigneur lui-même viendra s'humilier pour porter nos péchés et aller à la croix pour que le salut soit obtenu gratuitement, sans rien payer. Et je crois que Éphésiens 2 nous atteste cela au verset, je crois, 7 à 8.
Éphésiens 2, versets 7 à 8. Excusez-moi. La parole dit. Afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen.
Amen. Donc, nous voyons ici que l'acte posé par le prophète Élisée avait un sens très profond. Donc, c'était pour nous enseigner, pour nous montrer qu'en réalité, dans les siècles à venir, Dieu va nous manifester sa grâce. Dieu va nous manifester sa bonté en venant lui-même dans une posture de la chair pour nous ôter, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous guérir du péché par son propre sacrifice. Et que en ce moment, nous n'aurons plus à faire quoi que ce soit, mais que ce sera par le moyen de la foi. Il suffira seulement de croire à ce sacrifice pour être sauvé du péché et être justifié devant Dieu pour toujours. Donc, c'est pour cela que nous devons reconnaître être sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu pour nous. C'est Dieu qui donne la délivrance, c'est Dieu qui donne le pardon des péchés. Ce n'est point pas une œuvre humaine, ce n'est pas par un présent, pas un cadeau, ce n'est pas par de l'or, de l'argent, ni des vêtements. Toutes ces choses qui sont périssables, ce ne sont pas par ces choses que nous avons obtenu la grâce de Dieu, c'est par le moyen de la foi en ce que Dieu lui-même s'est fait chair pour s'offrir pour notre justification en sacrifice. Donc voilà, mes bien-aimés, je voudrais par là exhorter les frères et sœurs aussi à travers le monde entier à savoir que si l'Église a l'obligation ou si le monde a l'obligation d'écouter l'Église, c'est de la même façon que l'Église a l'obligation d'écouter les ministres qui sont établis pour la conduire. D'où Hébreux 13, le verset 17, va nous interpeller. C'est pas seulement quand nous sommes devant les païens qu'on va dire « si tu ne m'écoutes pas, c'est l'enfer ». Et puis arriver maintenant dans l'Église, au milieu des saints, on devient rebelle maintenant et on va aussi dire à ceux qui sont nos conducteurs « si tu ne m'écoutes pas, il n'y a pas pardon pour toi ». Il y a des choses que nous avons le droit, tous en tant qu'Église, de dire aux païens qui doivent rejoindre la bergerie s'ils sont de Dieu. Mais il y a des choses que quand nous revenons dans l'Église, Nous devons savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont choisies pour conduire certaines. Donc, Hébreux 13, le verset 17, ce n'est qu'un rappel parce que nous le savons déjà.
La parole dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Avant. Amen.
Amen. Donc nous voyons ici que dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui doit se lever pour faire comme il veut. Parce que quand nous sommes dehors, nous avons tous le droit de prêcher l'évangile aux païens. Et quand nous revenons dans la bergerie, nous devons savoir qu'il y a des gens que Dieu lui-même a établis pour que d'autres les écoutent. Donc si les païens nous écoutent dehors, nous qui sommes l'Église, quand l'Église est réunie, elle doit savoir écouter aussi les conducteurs que Dieu a établis au sein d'elle pour que le bon ordre de Dieu règne dans son Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire, comme une instruction dans 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15, il dit, si les gens écoutent nos instructions, ou que ce soit qu'ils lisent les instructions que nous donnons par des lettres, et qu'ils ne veulent pas se soumettre à ça, on doit les noter et les mettre de côté. Parce que quelqu'un qui est de Dieu, qui est dans l'Église, doit savoir que si quelqu'un qui est établi pour me parler, me donne une instruction, je dois croire que c'est Dieu qui me parle à travers lui et je dois me soumettre. Donc, frères et sœurs, prenons garde et marchons selon l'ordre de Dieu pour ne pas être des enfants rebelles et désobéissants. Nous allons aborder le point suivant où nous voyons que Élisée a demandé à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Bon, je crois que par moment vous allez entendre un bruit. Quand on est en cohabitation dans une concession commune, il y a des choses qu'on est obligé de supporter comme telles. Donc, bien-aimés, ne soyez pas trop dérangés, même si cela vous dérange, veuillez comprendre quand même les circonstances. Je crois que nous pouvons avancer.
Amen.
Amen.
Amen. Donc, le prophète Élisée recommande à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et il sera pur. Ici, nous allons nous rendre compte que le chiffre qui a été utilisé par l'homme de Dieu pour donner cette instruction à Naaman, ce n'est pas un chiffre au hasard, parce que nous avons dit qu'il est l'image de Dieu en tant que prophète. Il représente aussi les ministres. Donc ça dit que Dieu ne parle pas au hasard et les ministres de Dieu ne parlent pas selon leur propre gré, comme si c'est eux-mêmes qui ont quoi que ce soit comme parole ou pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans ses jours de la chair peut dire les choses que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Je ne le fais pas de moi-même, mais c'est exactement ce que Dieu veut que je fasse. Donc c'est pour dire que ici, le prophète Élisée n'est pas en train de dire ce qu'il veut selon les désirs de son cœur charnel, mais il est en train de dire ce qui est selon Dieu. Il travaille à travers lui et dont il est le messager. Donc, nous voyons ici que se laver 7 fois dans le Jourdain avant d'être pur, c'était juste, comme beaucoup peuvent déjà se faire une idée de cela, une prophétie de ces 7 dispensations que nous avons reçues à travers plusieurs enseignements des ministres. Donc, c'était une prophétie qui montre que c'est à la 7e dispensation que les eaux du baptême de ceux qui ont écouté l'Église, qui est la bouche de Dieu sur la terre, pour croire à l'Évangile, seront baptisées et sauvées. Donc, ce chiffre 7 C'était une prophétie que c'est dans la septième dispensation que nous serons sauvés gratuitement par le moyen de la foi sans les œuvres. Voilà pourquoi, pour enseigner cela, Dieu a instruit le prophète Élisée de ne rien prendre comme présent de cet homme, malgré que, à ce moment, Israël était encore sous le temps de la loi de Moïse. Donc, le prophète pouvait même se permettre d'instruire que l'homme puisse se conformer au rituel de sacrifice selon la loi de Moïse pour être purifié. Mais il a mis tout ça de côté pour montrer que un temps vient dans la septième dispensation où toutes les œuvres qui se font selon la loi seront mises de côté et que même ceux qui sont sous ces œuvres de la loi devront se repentir de ça ou croire à l'évangile et être baptisés pour recevoir le salut. Donc ici, nous voyons dans Jean 4, versets 23 à 24 que nous allons lire.
Jean 4, versets
Jean chapitre 23 à 24.
La parole dit. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen.
Amen. Donc nous voyons ici que Dieu, dans ces jours de la chair où il est sur la terre, fait savoir que lui il est venu apporter une nouvelle adoration dans laquelle ceux qui y seront acceptés par la prédication de l'évangile seront des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc le Seigneur Jésus confirme que ce que Dieu a prophétisé à travers le prophète Élisée et Naaman, c'est ça qu'il est venu accomplir. Pour que toutes les œuvres, la justice de l'homme et les œuvres de la loi soient mises de côté, afin que les vrais adorateurs soient ceux qui ont cru et qui sont sauvés gratuitement par le moyen de la foi. C'est eux qui pourront maintenant être remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc c'était une prophétie qui annonçait les choses qui doivent se passer dans la dispensation de l'Église à laquelle nous sommes aujourd'hui. Ainsi, nous allons pour finir parler sur les autres fleuves de Syrie avant de continuer. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous tendons tout petitement vers la fin. Pour aujourd'hui, nous allons enfin parler sur les autres fleuves de Syrie. Ici, nous voyons que lorsque Naaman reçut l'ordre d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour être pur, il a affiché une résistance. Il a affiché une opposition. Il a contesté contre cet ordre du prophète au départ. C'est pas fini. Il a obéi. Dans les moments, dans les minutes, dans les instants de son opposition, de sa contestation, il pouvait déclarer que est-ce qu'il n'y a pas en Syrie où il a quitté des fleuves? Il a même cité près de 3 fleuves pour dire que ces fleuves-là sont plus vastes, sont plus profonds, contiennent beaucoup d'eau, plus que le Jourdain. Pourquoi il va laisser tous ces fleuves pour venir en Israël et on va lui intimer l'ordre maintenant d'aller se laver dans un fleuve qu'il juge être très peu valeureux par rapport au fleuve de chez lui. Mais nous allons voir que quand Naaman est en train de parler de la sorte, il est en train d'exprimer la croyance qui est en lui. Parce que l'eau du Jourdain représentant le baptême de la septième dispensation, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ, nous allons voir que Naaman est en train de déclarer par là que, mais, est-ce qu'il ne pouvait pas se laver dans les fleuves de Syrie pour être guéri? C'est l'image de ceux vers qui nous allons, qui sont dans les différentes dénominations, qui ont reçu le baptême de la fausseté, qui ont reçu le baptême de catholique, qui ont reçu le baptême de l'Assemblée de Dieu, qui ont reçu le baptême de UEB, qui ont reçu le baptême de témoins de Jéhovah, qui ont reçu les baptêmes des faussetés des dénominations. Et quand on va vers eux, ils se permettent de dire, mais comment vous pouvez me dire que c'est vous, votre baptême qui sauve, et que le baptême que j'ai reçu dans mon église. Et c'est la fausseté dans laquelle il est qu'il appelle dans son église. Donc ici, Naaman est en train de nous exprimer la croyance de ceux qui sont dans l'égarement, qui croient que le baptême de l'égarement est aussi capable de leur accorder le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est la croyance qu'ils ont. Voilà pourquoi ils disent aussi Seigneur, Seigneur, oubliant que le Seigneur lui-même a dit que ce ne sont pas tous ceux qui prononcent son nom qui seront admis pour le royaume de Dieu. Donc ici, nous voyons que les autres eaux, les autres fleuves de Syrie représentent les faussetés et les œuvres de la fausseté. Donc tous ceux qui ont été baptisés dans les autres fleuves, qui ont été baptisés dans les autres faussetés, qui sont dans les adorations et les pratiques des autres faussetés, sont à l'image de ceux qui se lavent dans les autres fleuves de Syrie, croyant être sauvés. Donc voilà ce que le Seigneur nous révèle. Et nous allons lire en complément. Nous avons déjà lu Romains 10, versets 1 à 3, où Dieu montre que les hommes ne connaissant pas la justice de Dieu ont établi leur propre justice. Donc les autres fleuves représentent les pratiques, les dénominations, les faussetés qui établissent leur propre justice et ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Donc, ceux qui reçoivent le baptême du Jourdain, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est eux qui sont sauvés. Ceux qui se font baptiser dans les faussetés sont ici l'image de ceux qui sont baptisés en Syrie, de ceux qui se sont lavés en Syrie, qui ne peuvent pas recevoir la purification de leur lèpre. Le péché reste toujours attaché à eux. Nous allons voir Romains 3, versets 11 à 18. Pour finir avec ce point, pour finir avec notre méditation d'aujourd'hui.
Romains 3, versets 11 à 18, la parole dit.
Oui.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous seront égarés, tous seront pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Je devais m'arrêter. Amen.
Amen. Les frères et sœurs, la parole nous montre clairement ici que ceux qui se confient dans les autres fleuves de Syrie, c'est-à-dire ceux qui se confient dans les pratiques des dénominations et des faussetés, les faux baptêmes, les fausses adorations et tout ce qui va avec, ils ne connaissent point la voix de Dieu. C'est des destructeurs. Ils versent le sang, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas guérir le péché, mais ils gardent les gens dans la condamnation éternelle. Ils tuent. Et c'est pourquoi quand nous appelons des criminels, des assassins, ils s'enflamment alors que nous disons ce qui est vrai. ils ne se sont pas confiés à Dieu, à la justice de Dieu. Donc voilà ce que représentent les autres fleuves de Syrie. Quand Naaman dit ça, tous ceux qui disent, si je suis baptisé dans le catholique, je vais mourir catholique. Je suis témoin de Jéhovah, je vais mourir témoin de Jéhovah. Sont en train de dire qu'ils vont demeurer dans les fleuves de Syrie au lieu de venir au fleuve du Jourdain, au lieu de venir au baptême dans la vérité, au lieu de croire à l'évangile et être baptisé dans la vérité, ils vont demeurer dans leur fausseté et ils vont mourir dans leur péché. Donc voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Amen, sois béni.
Amen.
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 Reste béni.
Amen.
Merci pour ce plat délicieux.
Amen.
Nous rendons gloire à Dieu pour l'enseignement. Alors nous allons continuer le lundi si Dieu le permet. Alors docteur, nous allons nous revoir le lundi pour la suite.
Exactement.
Gloire à Dieu. Alors, nous demandons donc à la sœur Chacha si elle peut nous faire la prière de la fin.
Amen. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te disons encore merci. Merci d'avoir disposé de ces moments. Merci d'avoir permis que nous puissions nous connecter pour être nourris encore, Seigneur, de cette nourriture spirituelle, Seigneur, qui nous fait grandir, Seigneur Jésus-Christ, et qui nous fortifie. Père éternel, nous te rendons grâce également pour ton serviteur que tu as disposé ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour sa vie, Seigneur, et nous te demandons encore de lui augmenter encore notre connaissance et en sagesse. Seigneur Jésus-Christ, fortifie-le, affermis-le pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons également tous les ministres, Seigneur Jésus-Christ, qui travaillent. Seigneur Jésus-Christ, fortifie-les, bénis-les et utilise-les puissamment. Maintenant, nous te recommandons notre sommeil, le sommeil de tous les saints partout dans le monde. Que tu veilles sur nous, que tu nous protèges, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de toujours rester attachés, de rester fermes dans la vérité. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. C'est en ton nom puissant, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
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 Amen.